Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Laura est colombienne. Je la connais depuis quelques années via les réseaux sociaux. Voyageuse, engagée dans la solidarité internationale et l'écologie. Portée par des valeurs humanistes, Laura fait partie des personnes qui œuvrent pour un monde meilleur. Et comme la vie est bien faite, je l'ai rencontrée un peu par hasard au Cambodge, où elle travaillait comme directrice de l'ONG Enfants d'Asie. Joyeuse, optimiste et pleine de vie, j'ai voulu dans cette émission Regarde ailleurs, lui donner la parole pour partager avec vous son parcours de vie touchant et engagé. Je sais que tu es colombienne, mais que tu parles parfaitement notre langue. Donc l'interculturalité semble vivre, t'habiter, vivre en toi. Donc voilà, l'idée de cette rencontre, c'est vraiment de savoir un petit peu qui tu es, d'où tu viens. Donc on va commencer par le début. Comment ça se fait déjà que tu parles le français aussi bien ?
Bah déjà, merci pour cette interview et ces petites questions que tu as me posées. Comment ça se fait que je parle aussi bien le français ? C'est grâce à ma maman. Elle a rencontré l'amour de sa vie en Colombie. Moi, j'étais encore bébé. Enfin, j'étais déjà née, mais j'étais encore bébé. Et puis, elle s'est mariée avec lui. Et puis, elle est partie. Elle m'a laissée avec ma grand-mère. Elle m'a laissée en Colombie parce qu'elle ne savait pas où elle allait atterrir en France. C'était la première personne de ma famille qui quittait le pays. Mais elle avait quand même l'âme de voyageuse depuis toujours. Elle avait la bougeotte puisqu'elle voyageait beaucoup en Colombie. Elle était artiste, chanteuse et danseuse. Et donc, ça a été un petit peu l'aventurière de la famille qui est tombée de cet homme français. Grand, aux yeux bleus, tout ça nous fait craquer généralement en Amérique latine, les personnes qui ont cette allure très, très européanisée. Et donc, elle m'a laissée avec ma grand-mère pendant 10 ans en Colombie. Et puis à 10 ans, elle m'a emmenée à Paris, quoi, en France.
Donc c'est de l'amour en fait, enfin, l'amour de ta maman pour un homme qui t'a amené ici en France et qui t'a fait y rester plusieurs années.
Exactement. Donc moi en Colombie j'ai grandi dans une famille traditionnelle, hein, mais je me rappelle que j'aimais toujours partir le week-end, on appelle ça el paseo de olla, donc c'est le week-end en famille, c'est très typique, c'est qu'on prend les poêles, on prend les fourchettes, on prend les couteaux et on part tous dans un 4x4 en famille, plusieurs personnes, une vingtaine de personnes, les cousins, les grands-mères, etc. Et on part dans un village ou à la rivière, ou on part en voyage quoi, les week-ends. Il faut sortir voyager et on va faire la cuisine en pleine nature et avec les moyens du bord. Et voilà, tout le monde participe. Et je me rappelle que c'est là où je me disais, mais j'aime vraiment voyager, quand ma grand-mère me disait, allez, va préparer ta valise parce qu'on part en Paseo de Olla ce week-end. Et waouh, j'étais là, oui, on va partir en Paseo de Olla. Et voilà, et quand ma mère, elle m'a dit qu'elle allait m'emmener à Paris enfin, parce que moi, je ne la connaissais pas vraiment, on se parlait au téléphone, mais moi, je ne connaissais pas ma maman. J'imaginais toujours Paris avec la Tour Eiffel, l'Arc du Triomphe, le rêve. Alors je viens pas d'une famille très très aisée en Colombie, et c'est vrai que pour moi c'était très intéressant de pouvoir un jour aller en France avec ma maman et avec cette culture française que je connaissais pas, que je parlais pas la langue et que j'avais aucune idée. Ouais.
Parce que ta maman est partie en France quand tu avais quel âge ?
J'avais 3 ans. Oui, j'ai grandi avec ma grand-mère. Avec ma famille là-bas, parce que j'ai beaucoup d'oncles, de tantes. Malheureusement, je ne savais pas que j'avais un papa jusqu'à mes 15 ans. Donc j'ai grandi en croyant que je n'avais pas de papa. Mais en fait, j'ai plusieurs papas. J'en ai plein d'hommes autour de moi qui m'aiment. En tant que papa, je veux dire. Mais oui, j'ai rencontré mon père quand j'avais 15 ans. Mon père génétique.
Et tu l'as rencontré en Colombie alors ?
Oui. Quand je vivais en France à 10 ans, je suis partie en France. Et j'allais tout le temps en Colombie en vacances. Tous les étés, je me rappelle que les grandes vacances, tu vas aller où, Laura ? En Colombie, parce que voilà, j'avais ma grand-mère qui pour moi était ma maman aussi. Et en allant en Colombie à mes 15 ans, effectivement, j'ai entendu que j'avais un père.
Incroyable. Donc de 3 ans à 7 ans, tu as grandi sans ta maman, ou en tout cas à travers le téléphone, quoi. Tu avais une image de ta maman qui était très lointaine.
Oui. Pour moi, ma maman, c'était ma grand-mère. Voilà, oui. Ouais, non, ma maman, elle n'était pas présente.
Et pourtant, le voyage était déjà en toi. Tu disais, quand vous partiez le week-end à la campagne, tu te réjouissais pour faire ton sac et aller explorer un petit peu donc, les alentours. Donc, tu arrives en France à l'âge de 10 ans. Tu y vis 10 ans, c'est ça, de 10 à 20. Et là, Tu prends la route de nouveau toute seule. Enfin, parle-moi un peu de ta vie de voyageuse, parce que j'ai l'impression que tu n'as pas arrêté de bouger.
Oui, alors le voyage, pour moi, ça a été aussi une guérison. Là, je te suis sincère, en fait, le voyage, pour moi, ça a été toujours une quête spirituelle et surtout une quête de guérison. Je n'ai pas fait de thérapie avec un psychologue ou un psychiatre, mais je l'ai toujours vu comme une guérison. Une guérison de mon passé, de mon enfance, de mon adolescence. J'ai vécu en foyer en France. J'ai été en foyer pendant 3 ans avec le gouvernement. Pour plein de choses, tu peux imaginer que ça peut rentrer dans des choses très intimes, mais ce qui fait que grâce à ça, aujourd'hui, je suis ici au Cambodge. Là, je vais pas vraiment dans l'ordre, mais c'est pour t'expliquer du pourquoi de nos jours aussi je fais ce métier qui grâce au Covid aussi donne du sens pour moi. C'est-à-dire que là, je m'occupe d'enfants qui sont orphelins dans des foyers, qui ont besoin de ça, et parce que bon, moi, j'ai vécu aussi ça, donc.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Non, c'est très bien. J'avais envie de savoir à partir de quel moment tu as commencé à quitter la France pour te mettre en mouvement. Je sais que tu étais en Australie. Est-ce que c'était vraiment ça, ton premier long voyage toute seule? Parce que là, donc, effectivement, tu es né en Colombie, tu arrives en France. Tu arrives en France à l'âge de 10 ans, donc tu fais tout ton cursus scolaire hein, ici en France. Mais à partir de quand tu choisis de voyager? Tu as quel âge quand tu pars loin?
À partir du moment où enfin j'ai eu les papiers. En fait, moi j'habitais à Bobigny. Ce n'était pas du tout la Tour Eiffel et l'Arc du Triomphe que j'avais imaginé. J'habitais dans un quartier très difficile, j'habitais dans les cités. Et j'étais une fille très, très agressive aussi, j'étais très insolente. Du fait aussi que j'habite en foyer, c'était pas facile. Et donc en fait, j'ai fait beaucoup de matinées à 3h du matin à la préfecture de Bobigny pour essayer d'avoir ma carte de séjour, mon visa, etc. Mon visa, non, parce que le visa, je l'avais forcément. Et puis enfin, à 22 ans, on m'a donné le passeport. Et je l'attendais depuis toujours parce que j'entendais déjà mes amis qui partaient en working holidays. J'entendais qu'elles partaient en Australie, c'était à la mode. Et moi, je ne rêvais que ça. J'étais déjà en train de m'imaginer avec les aborigènes et reculer dans le bush. J'avais donné comme excuse d'apprendre l'anglais parce que mes parents, c'était ma maman. Maintenant, on a une très bonne relation et puis c'est une femme géniale en fait. Mais à ce moment-là, elle avait encore cette envie que j'ai un parcours classique en fait. C'est-à-dire que j'ai fait aussi une école de commerce. Hein. Entre-temps, il faut dire que je suis sortie du foyer et j'ai réussi à faire cette école de commerce dont je rêvais aussi tant. Parce qu'on me disait que je n'avais pas assez d'argent pour faire une école de commerce. Mais j'ai réussi à trouver la seule école de commerce à cette époque-là en alternance, Advancia. Et donc, une fois que j'ai fini mon école, que j'ai eu mes papiers et que j'ai pu acheter le billet, j'avais pas assez d'argent. Je suis partie d'abord en Thaïlande et de fil en aiguille, je suis arrivée en Australie, mais j'ai d'abord fait l'Asie.
Donc, quand tu as eu ton passeport, ton premier voyage avec un passeport français, ça a été la Thaïlande?
L'Égypte. Okay. Ça a été l'Égypte, parce que c'était vraiment le pays que je voulais d'abord y aller. Mais bon, l'Égypte, c'était 2 semaines, vraiment... l'Égypte. Et puis ensuite, là, j'ai préparé ma valise. Alors, ma valise, à l'époque, je ne savais pas voyager en backpacker. J'avais 22 ans toute seule. Je n'avais jamais voyagé. Je n'avais même pas acheté un backpack. J'avais acheté vraiment la valise. Quoi. Et j'avais mis 30 kilos pour aller à Koh Tao. Donc, on peut te dire que j'étais très débutante. Là, d'ailleurs, ça me fait rire parce que j'étais la semaine dernière à Koh Tao. Enfin, j'ai passé le 31 à Koh Phangan et à Koh Tao. Et j'étais, 10 ans après, j'étais en train de faire cette introspection de la femme que j'étais devenue 10 ans après. Et tu sais, ce genre de questions quand on te pose dans 10 ans, comment tu te vois? Et cette fin d'année, ça a été que de l'introspection pour moi. J'ai été toute seule et j'étais là, waouh, 10 ans après, je suis devenue cette femme. Donc oui, la guérison a marché. Le voyage, pour moi, je pense que je l'ai toujours vu comme voyage thérapie, quoi.
Mais vraiment, ça, tu peux le poser comme ça. Pour toi, voyager, la symbolique du voyage, c'est vraiment une manière, ça a été une manière pour toi de te guérir.
Totalement. De me découvrir, bien sûr, de me guérir, de connecter aussi avec la spiritualité. Parce que moi, j'étais une fille qui avait grandi à Paris, justement, avec très loin en fait de la spiritualité en général, très loin de tout ce qui est la méditation, tout ce qui est le développement personnel. De nos jours, c'est vachement à la mode, mais il y a 10 ans, quand j'ai commencé ici, dans ces pays asiatiques, ça m'a ouvert des portes. Et puis après, je suis partie en Amérique latine, voyager, j'ai fait toute l'Amérique latine en voyageant, et je me suis dit, mais il y a énormément de connexions, en fait, ce que les disent les gens en Asie. Toutes les personnes que je rencontre, les moines, les babas, au Népal, tout ça. Et les chamans, les taïtas en Amérique latine. Alors, je n'ai pas encore eu l'occasion de faire l'Afrique, mais je pense qu'à la fin, toutes ces personnes nous donnent le même message. C'est vraiment le message d'amour, d'être une meilleure personne à chaque fois, de faire ressortir les qualités innées qu'on a en tant qu'être humain.
C'est aussi le message de la plupart des religions.
Exactement, exactement.
La spiritualité, donc toi, ça a été un moyen de te découvrir, de te guérir et aussi de te reconnecter à cette spiritualité dont tu parles. Comment tu l'as définie ? Parce que j'ai l'impression que des fois, quand on est en quête, dans le voyage, il y aura des synchronicités, des choses qui vont se mettre en place absolument incroyables. On va vouloir penser, on va vouloir faire quelque chose et hop, la rencontre va nous permettre d'arriver à nos fins. Comment tu expliques des fois la magie du voyage ?
Je pense que c'est une question de vibration. Je crois vraiment que l'attitude, l'énergie, tes pensées, tout ce que tu émanes fait que forcément, si tu es une personne agréable et que tu veux du bien, et c'est ce que certaines personnes appellent le karma, bon, je ne vais pas rentrer trop dedans, mais je pense que oui, qu'on attire ce qu'on est à l'intérieur. Et pas forcément dans les temps voulus. Moi, c'est vrai que par exemple, toi, j'aurais voulu te rencontrer déjà il y a 2 ans pendant la période Covid. Et voilà, et on se rend compte maintenant, 2 ans après, mais en moins, je sais que c'est une belle rencontre, que je savais qu'on devait se rencontrer à un moment donné.
Ouais, donc en fait, il y a vraiment cette notion de créer sa réalité, quoi. Des fois, formuler une pensée à l'univers, et elle est entendue, et elle ne se réalise pas toujours, mais des fois, elle se réalise comme c'est le cas là, quelques années plus tard. Donc c'est vrai que je t'avais eu au téléphone en France, j'étais dans mon bureau à Colmar, et je te retrouve là, dans un restaurant ici, à Phnom Penh, j'adore.
Oui, oui, oui. Après, il faut aussi mettre en action. C'est pas seulement le souhaiter. Je crois pas trop à seulement la pensée positive, oui. La loi de l'attraction, oui. Mais après, il faut se mettre en action quand même. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher les choses.
Donc, tu me parles de ton premier voyage avec ton passeport français. Tu as 22 ans, tu pars en Égypte, ensuite tu pars à Koh Tao, donc tu vas à Koh Tao, et donc là en Thaïlande, tu as déjà ce projet de partir en Australie, ou est-ce que tu essaies de travailler déjà en Thaïlande ? Tu as déjà cette envie de trouver un moyen de rendre le voyage viable ?
Déjà, il fallait que je travaille, parce qu'en fait, j'avais fait mon école en alternance, donc je gagnais, je pense, 600 euros par mois à cette époque-là, mais je n'avais pas suffisamment pour partir longtemps. J'étais partie avec 1500 euros. Donc, je n'allais pas tenir longtemps. Et quand on m'a expliqué qu'en arrivant à Perth, la nuit, elle allait coûter très, très cher, je me suis dit, il va falloir que je travaille. Donc, j'ai commencé à faire du couchsurfing. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Et en couchsurfing, c'est génial parce que non seulement tu rencontres des personnes qui t'ouvrent des portes, mais en plus, tu dépenses moins. Enfin, bref, pour moi, je ne sais pas comment ça marche, cette communauté de nos jours, mais pour moi, ça, je crois que j'avais un profil avec 130. Je me rappelle, la dernière fois, j'avais 130 commentaires parce que j'en ai fait beaucoup. Et en couchsurfing, effectivement, j'ai rencontré une Colombienne qui habitait en Thaïlande et qui traduisait, traduisait d'espagnol plusieurs langues. Et encore une fois, de fil en aiguille, ça fait que j'ai réussi à gagner un peu d'argent avec la traduction. Puis je faisais des petits boulots aussi. Là, je commençais dans les îles aussi, à Koh Phangan. J'avais travaillé pendant un certain temps, volontaire. Bon. Et jusqu'à ce que j'ai pu économiser un peu plus pour aller en Australie, sauf que l'avion faisait une escale à Hong Kong. Et moi, dès qu'il y a une escale, je me dis, pourquoi pas visiter en même temps, tiens. Puis pareil, à Hong Kong, j'ai rencontré quelqu'un. Depuis en aiguille, je suis restée un peu plus longtemps que prévu. Je comptais rester une semaine et je crois que je suis restée quelques semaines de plus. C'était une Chilienne en plus qui venait rencontrer sa famille. Elle n'avait jamais vécu à Hong Kong. Elle venait rencontrer sa culture. Et donc, elle m'a un petit peu emmenée dans son parcours. C'était assez intéressant. Et enfin, j'ai pu arriver ensuite en Australie, à Perth. Ouais.
Ce que je trouve génial quand je t'écoute parler, c'est que finalement, tu pars sans filet. Tout est possible.
Hein, tu te mets en mouvement, encore une fois, cette notion du mouvement, mais sans plan précis, et tu saisis les opportunités que t'offre la vie. Tu es prêt tout à fait à dévier en fonction d'une rencontre ou d'une intuition.
Oui, effectivement, tu as dit le mot intuition, c'est ce que j'allais te dire. Je pense que j'ai toujours été une personne intuitive, et je pense que pour qu'un voyage soit surprenant, il vaut mieux ne pas avoir trop de plans, selon mon point de vue. Et d'ailleurs, une des choses que de nos jours j'aime, c'est... Alors, je pense que planifier un petit peu avant le fait de donner une intention, où est-ce qu'on veut y aller, qu'est-ce qu'on aimerait visiter, se renseigner un petit peu, c'est déjà intéressant. Moi, j'aime bien cette étape-là de regarder un petit peu, d'en parler avec des gens autour, c'est des personnes qui ont voyagé dans ce pays. Mais prendre le billet, arriver et puis voir un petit peu comment ça se passe sur place en se laissant y aller, c'est sympa, ouais.
Donc tu fais partie de ces gens qui achètent un aller sans forcément avoir de billet retour.
Exactement, oui. Exactement. Et même sur place, se laisser aller sans savoir où est-ce que ça va finir. Alors à l'époque, c'était beaucoup plus simple parce que vraiment, je partais, j'avais pas de travail. Bon, j'avais un copain, je l'ai quitté. Je le quittais, malheureusement. Ça, c'était aussi la guérison parce que c'était mon premier grand amour et je partais aussi pour justement ne plus penser à cette relation. Mais j'avais pas le temps, j'avais pas de temps limite, donc vraiment c'était génial parce que tout ce que je savais, c'est que j'allais en Australie et pourquoi pas rester là-bas, on verra qu'est-ce qui allait se passer. Hein. De nos jours, c'est différent. De nos jours, là, mes voyages, là, par exemple, j'ai été en Thaïlande pendant 15 jours, je savais que j'avais que 15 jours. Mais je savais que j'allais à Koh Phangan et je ne savais pas ce que j'allais faire là-bas. Peut-être que j'aurais fini à Chiang Mai une semaine après si j'avais...
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Parce que là, je te rencontre dans un cadre un peu différent où tu es salarié hein, par une ONG ici à Phnom Penh. On en parlera un petit peu plus tard. Donc, il y a toute une évolution aussi dans le voyage. Tu es parti à 22 ans. Tu en as combien ? 33, tu disais, je crois, 34 ans. Donc voilà, il y a 10 ans de voyage et c'est sûr qu'on voyage peut-être plus de la même manière à 22 qu'à 34.
Non, déjà parce qu'on a plus les moyens financiers. En plus, parce que je me suis rendu compte que j'aime dormir aussi dans un lit confortable. Je me rappelle qu'à l'époque, j'avais besoin d'aventure. Tu me disais de dormir en tente, par terre, sans matelas. Et j'étais là, oui, c'est trop bien, c'est trop aventuré. De nos jours, je ne sais pas si je peux avoir un petit lit, c'est pas mal. Quoi. Et non, parce qu'à l'époque, en plus, quand j'ai commencé le voyage, comme je te disais, j'étais très mentale aussi. Mon voyage, au début, j'étais dans ma pensée, à réfléchir tout le temps sur ma vie, sur mon passé, à vouloir justement rencontrer... des situations qui me fassent oublier mon enfance, qui me fassent comprendre aussi pourquoi j'avais vécu tout ça, qui me fassent aussi me remettre en question aussi sur des défauts que j'avais à travailler, que de nos jours, je pense que j'ai converti dans des valeurs plus qualitatives. Enfin, de nos jours, je pense que je suis beaucoup plus patiente, je suis beaucoup moins impulsive. Bien sûr, il y a toujours des situations peuvent être énervantes, mais j'ai mûri, quoi. J'ai mûri, je me laisse moins emporter par mes émotions. J'ai réussi à contrôler mes émotions beaucoup plus et grâce au voyage.
Il y a vraiment quelque chose d'initiatique, en fait, dans le voyage.
Totalement. Les voyages initiatiques, c'est ma passion. Pas les voyages touristiques, mais initiatiques, oui.
Qu'est-ce qui met fin à ton voyage en Australie ? Pourquoi, au bout de 2 ans, tu choisis de rentrer en France, hein, c'est ça ?
Non, pas en France, non. Non, en Australie, comme je te disais, la première année, c'était vraiment voyage, visiter beaucoup l'Asie aussi, parce que depuis Darwin et depuis Perth, c'était vraiment l'Indonésie qui m'avait aussi beaucoup passionnée. J'étais beaucoup à cette époque-là à Bali. D'ailleurs, tous mes tatouages viennent de Bali parce que j'ai mes meilleurs amis là-bas qui sont balinais. D'ailleurs, je pense qu'un jour, j'irai vivre quelques années à Bali. Je ne sais pas commencer après 10 ans. Hein. Je n'ai pas encore été... Et ce qui met fin à mon voyage en Australie, c'est que la deuxième année, j'ai économisé de l'argent parce que j'avais envie de me réinstaller en Colombie. Mais j'ai toujours su qu'en Colombie, il vaut mieux avoir de l'argent ou des euros pour pour arriver et faire un business. Mais pas être salarié en Colombie, c'est un peu complexe. Même à cette époque-là, c'était déjà complexe. Et j'avais envie de repartir chez moi, ouais, en Colombie.
Tu restes combien de temps en Colombie avant de reprendre la route ?
2 ans. J'ai rencontré 2 filles en Australie, une franco-allemande et une australienne qui, avec qui on habitait à Melbourne et on donnait des cours de salsa. J'ai aussi donné des cours de salsa parmi tous mes... Je suis passionnée de salsa. Et on était dans la culture latino là-bas. Et puis on aimait beaucoup aussi les festivals de psy-trans, psy-trans. Voilà, j'aime beaucoup tout ce genre de festival toujours. Hein. J'aime beaucoup le Boom, le Burning Man, tout ça. Et en fait, on s'était dit, pourquoi pas, on va aux Caraïbes. Et moi, je viens de la capitale, mais j'ai beaucoup de famille à Carthagène. Et mes parents aussi ont investi à Carthagène, etc. Donc, on s'est dit, bah, on part à Carthagène et on se loue des bateaux ou on achète un bateau. Et on fait des week-ends bien-être, psytrance, enfin musique électronique. Et puis, entre-temps, on voit ce que ça donne. Ce qu'on appellerait de nos jours les retraites bien-être qui sont à la mode. Mais à cette époque-là, ce n'était pas encore développé, surtout pas en Colombie. Mais on l'a fait pendant un an. On a créé Frenesi Events. On a monté une boîte d'événements de voyage, bien-être, écologie. Parce qu'à l'époque, j'étais déjà... Justement, c'est en Australie que j'ai développé la passion pour les écovillages. C'était à Byron Bay. Il y avait un écovillage ou un lieu qui s'appelait Rainbow Temple. Et c'est Rainbow Temple qui m'a... Pouah, ça existe un style de vie comme ça, un mode de vie comme ça.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le sujet, c'est toi, Laura, et tes différents voyages. Donc, on parle de l'Australie, tu retournes en Colombie, tu développes des projets autour du voyage santé et bien-être. Mais là, je te retrouve directrice d'une ONG. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ?
Entre-temps, il s'est passé que je suis tombée amoureuse à nouveau d'un Colombien et que son rêve, c'était de voyager. Il a vu en moi cette femme qui partait sans avoir un plan. Et je lui ai dit, écoute, il était architecte. Non, il était ingénieur environnemental à cette époque-là. Et il m'a dit, mon rêve, c'est de devenir architecte. Je lui ai dit, tous les rêves sont faisables, en fait, il faut juste s'y mettre. Et quand on tombe amoureux, en plus, on a encore plus d'énergie, je me rappelle. Donc, à cette époque-là, j'avais laissé tomber Frenesi Events avec elle, parce que je suis restée 2 ans en Colombie. Ça s'est fait une année. Ensuite, je suis rentrée dans le monde du MICE, le monde du voyage des affaires. Ça a été mon métier pendant 6 mois. Je me suis dit, on peut gagner quand même pas mal de sous comme ça avec ce métier-là. Et ensuite, je suis partie à voyager avec lui pendant 6 mois en Amérique latine. J'ai fait l'Amérique latine avec lui. Et on allait... je voulais rentrer en Europe. Je suis rentrée en Europe. Mais entre-temps, j'ai été aussi dans un métier qu'on appelait à cette époque-là... ça me fait rire, mais bon. J'avais 25 ans. Coach. J'ai fait coach de vie. Ce qu'on appelait à cette époque-là coach de vie.
Ça s'appelle toujours coach de vie.
Oui, je crois que ça s'appelle coach de vie, mais maintenant, maintenant ça me fait rire parce qu'à 25 ans, qu'est-ce que tu vas faire coach de vie à 25 ans, quoi. Mais je l'ai fait avec beaucoup d'amour et surtout, je connaissais pas mal de cultures indigènes en Colombie parce que j'habitais à Carthagène et que j'étais pas très loin de la Sierra Nevada Santa Marta. Et voilà, j'ai connu des taitas et en fait, je suis vraiment tombée amoureuse aussi de l'ayahuasca, les plantes médicinales. Et ça m'a ouvert aussi des portes dans mon esprit. En fait, je me sentais vraiment capable de guider certaines personnes qui avaient traversé une enfance difficile et que moi, je commençais déjà à guérir et à avoir déjà plus d'éveil, en fait, sur peut-être partager ce qui m'avait aidé, moi. Et mon message, c'était toujours nature, pars toute seule. Ça, et c'est toujours mon message, c'est introspection, apprends à te connaître, va voir des personnes qui sont plus âgées, qui ont un message à te donner, enfin, partage. Et c'est ce que j'ai voulu faire aussi avec la médecine ayahuasca, c'est que la famille que je connais, qui sont des grands musiciens et qui partagent cette médecine en Colombie, le font d'une manière très familiale. avec, on part en famille en fait. Et moi, j'ai emmené ma grand-mère, elle est décédée pendant le Covid malheureusement, mais j'ai emmené ma grand-mère avec moi en fait, dans une cérémonie. Et là-bas, c'est très commun en fait. C'est pas...
Elle l'a découvert à travers toi alors, l'ayahuasca, les médecines et les plantes.
Parce que moi, l'ayahuasca, elle connaissait le taïta. Le taïta, c'est le grand-père qui l'a donné, elle le connaissait bien. Sauf que certaines personnes de la ville en Colombie voient ça comme de la magie noire, quelque chose de pas très sain. Mais parce qu'elles connaissent pas assez, quoi.
Bon, ça, ce sera une autre émission sur l'usage des plantes à l'ayahuasca. Mais tu as juste une vie absolument incroyable, peuplée de rencontres, d'expériences différentes. Comment tu fais pour les partager? Est-ce que tu as déjà pensé à ouvrir tout ça ou à partager toutes ces expériences de vie? Donc, tu parles de coach. Mais aujourd'hui, comment est-ce que tu partages tes 10 ans sur les routes du monde à la découverte de plein d'univers différents?
Justement, c'est un petit peu la frustration que j'ai, c'est que j'ai toujours eu envie de partager tout ça et d'une manière... j'ai pas encore trouvé la manière. C'est pour ça que j'admire beaucoup les personnes qui font ton métier et ton travail. C'est parce que vraiment, c'est ça la manière dont j'aurais voulu, ou je voudrais, parce que c'est pas trop tard, partager un jour toutes ces expériences. Ouais. Mais je n'ai pas, malheureusement, j'avais essayé de commencer à faire un blog quand j'avais commencé. Puis je me suis rendu compte que j'écrivais de temps en temps, mais c'était pas très, très assidu. Et après, maintenant, je partage un petit peu sur Instagram, mais je pense pas que c'est exactement le message que je veux faire passer, ni le moyen. Donc non, je n'ai pas encore trouvé le... Mais peut-être que j'ai pas besoin non plus de le partager. En fait, je le partage avec les personnes quand elles me posent des questions. Mes amis proches, ils sont super fans de mes voyages. Et quand je me bois un café autour d'eux, ils sont là à m'écouter pendant des heures et des heures, à me poser 10 000 questions. Ma mère aussi, elle est super fan de mes voyages maintenant et ils m'écoutent. Donc voilà, je partage avec mes proches en fait, en leur racontant. Je pense que c'est la manière que j'ai trouvée.
Donc tes voyages, hein, des expériences, l'humain, les rencontres aussi très présentes dans tes voyages et l'humain en ce moment. Donc tu es là pour travailler pour une ONG, donc j'aimerais que tu me parles un petit peu de ce chapitre de ta vie, parce que là tu es au cœur de l'humanité.
Oui, effectivement, le Covid a fait que j'ai remis en question aussi ma vie professionnelle. Je travaillais à Barcelone, je m'étais installée à Barcelone pendant 4 ans et j'étais dans le tourisme d'affaires. C'était très passionnant aussi parce que ça faisait c'était les agences de voyage, le monde du voyage. Mais en fait, j'ai jamais eu la qualité vraiment. Enfin, la qualité, oui, mais la passion pour la logistique. Je pense que dans mes voyages, justement, je fais tout sans vraiment planifier. Alors que le métier que j'ai fait pendant 4 ans, c'était de la pure planification pour des groupes de 400 personnes où il fallait planifier chaque minute qu'est-ce qu'elles allaient faire. Jusqu'à ce que je me suis rendu compte qu'en fait, ça n'allait pas du tout en fait, avec ce que je vais faire. Et tout ça, c'est grâce au Covid. Et écoute, je me suis dit, je vais partir aider les enfants. Je ne sais pas de quelle manière. Je me suis renseignée en France pour entrer dans l'enfance, la protection de l'enfance. Mais il fallait faire des études de 5 ans. Puis j'ai fini par me dire, je vais postuler, voir ce qu'il y a. Et puis j'ai vu l'annonce d'Enfants d'Asie passer. Et puis j'ai postulé et j'ai été prise pour directrice pays au Cambodge. Ouais.
C'est ça qui est incroyable. Donc tu te retrouves directrice d'une ONG.
Oui, directrice d'une ONG. Ils m'ont donné l'opportunité d'être directrice parce qu'ils ont vu aussi que, justement, avoir géré tellement de projets et de groupes en tant que chef de projet, directrice de projet de voyage, etc. Et ils se sont dit, bon. Et puis avec le parcours qu'elle a eu aussi d'enfance, on va voir si elle y arrive. Et puis je pense qu'ils sont contents, oui, puisque je continue chez Enfants d'Asie, cette fois-ci aux Philippines l'année prochaine, mais... Enfin, cette année, je pars. Mais oui, je pense que c'est une opportunité. J'ai vraiment été la chercher. Et je remercie Enfants d'Asie de m'avoir donné cette opportunité aussi.
En quelques mots, qu'est-ce que tu fais pour Enfants d'Asie? En quoi consiste le travail de cette ONG ici au Cambodge?
Accompagner les enfants vers un meilleur avenir. Donc, à travers un travail socio-éducatif, on a des foyers... On les aide financièrement, on les aide, on les accompagne en fait pour vraiment voler de leurs propres ailes après obtenir des études et voler de leurs propres ailes après pour sortir de la pauvreté en fait. Et moi, tout ce que je fais, c'est essayer d'avoir un aussi bon niveau que mon équipe en fait, parce que c'est à moi de m'adapter à eux et ça n'a pas été toujours facile parce que c'est une autre culture. Mais j'essaye surtout, ma mission, c'est de m'assurer en tout cas que les projets fonctionnent ici. Et voilà.
Et voilà, avec là bientôt donc un nouveau départ. Donc tu restes pour cette ONG, mais tu pars aux Philippines. À partir de quel moment tu ressens ce besoin de bouger à nouveau, de te mettre en mouvement? Qu'est-ce qui fait que tu te dis « Ok, maintenant, je veux continuer mon aventure ?»
Oui, maintenant je ressens très facilement si je me vois à long terme, moyen terme ou court terme dans un lieu. Et le Phnom Penh, j'ai toujours su que ça allait être un court terme parce que Phnom Penh, c'est une ville qui ne me correspond pas vraiment. Mais là, ça fait une année et puis je me suis dit, au bout de 10 mois, je me suis dit, je pense que je vais commencer à partir. Et puis ils m'ont proposé les Philippines, oui, c'est sympa les Philippines. Je pense que ça va être bien.
Tu vas rester en Asie encore un petit peu ou est-ce que tu t'imagines continuer à voyager dans d'autres pays ou quelle est la place du voyage dans les années à venir pour toi?
J'aimerais repartir en Colombie, je ne sais pas quand encore, et j'aimerais acheter un terrain ou m'associer avec un groupe pour faire un terrain ou pour faire un éco-village. J'aimerais vivre en éco-village en Colombie. Ça c'est Oasis Harmonia, c'est le projet que j'ai vraiment en tête. Maintenant, entre-temps, je pense qu'il va y avoir pas mal de voyages. Je pense que même une fois que j'aurai ce lieu, je continuerai à voyager parce que je pense que ce genre de lieu, ce qui est intéressant, c'est que ce genre de lieu, c'est le collectif. Donc, il vit toujours, même si on n'est plus là. Et c'est ça que je recherche, en fait, toujours dans les lieux où j'habite. C'est fatigant de vivre toute seule parce qu'en fait, dès qu'on part, il faut tout assumer toute seule, que ça soit financier, que ça soit tout. Et je pense que oui, je repartirai en Colombie dans les prochaines années, j'espère que je pourrai. En Colombie, il y en a certains, mais ce n'est pas aussi développé qu'en France. Et puis, je pense que la manière dont je le vois, c'est un lieu qui ramène aussi le côté... J'imagine un lieu, Orion par exemple, à Copenhague. Là, j'ai été dans un lieu qui s'appelle Orion. Et c'est un lieu où il y a plein d'ateliers, plein d'activités autour du développement personnel. C'est comme un gymnase de l'âme. Et moi, j'aimerais ça aussi pour une école de vie, ce que j'appelle dans ma tête. Je le vois très bien dans ma tête, j'ai très bien l'image en fait. C'est juste qu'il faut l'adapter aussi au pays et puis à la situation politique. D'ici là, on verra parce qu'actuellement, c'est très instable politiquement. Donc j'attends aussi de voir un petit peu comment le pays évolue pour me dire, allez, cette fois-ci, je repars en Colombie et je fais ma vie là-bas, quoi.
Et pourquoi choisir la Colombie plutôt que la France, sachant que tu as les deux cultures?
Parce qu'en Colombie, c'est un pays tropical, déjà, il n'y a pas l'hiver. Et parce qu'en plus, je pense que financièrement, j'arriverai, avec le peu que j'ai, à faire quelque chose là-bas, alors qu'en France... ça sera un peu plus complexe toute seule. Et tout simplement parce que ma famille est là-bas, parce que j'ai envie de reconnecter aussi avec mes racines et parce que j'adore la culture colombienne. Donc je pense que c'est là-bas qu'un jour j'irai le faire. Je pense que la vie en soi est un voyage. Après, il faut s'en rendre compte qu'il n'est pas éternel. Il faut vraiment se rappeler au quotidien qu'il peut s'arrêter à n'importe quel moment ce voyage. Et que grâce justement au mouvement et à la découverte de nouvelles cultures, de nouveaux pays, de nouveaux modes de vie... on arrive à juste se rendre compte qu'il y a plusieurs points de vue et plusieurs manières de voir les choses et on les accepte plus en fait. On n'impose pas forcément sa manière de voir en fait. Et c'est ce que j'appelle l'ouverture d'esprit en fait. C'est qu'une personne va vivre d'une certaine manière et on va comprendre en fait que dans sa... comment elle a grandi dans sa vie, on accepte en fait la vision qu'elle a par rapport peut-être à une autre vision qu'on a. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre en fait, mais c'est vraiment une question d'acceptation et c'est toujours bien d'avoir un débat et d'argumenter son point de vue, c'est génial. Mais le voyage, il t'apprend à le faire d'une manière plus soft, avec humour et douce en fait, une manière douce en fait, sans vouloir forcément imposer sa vision de comment elle est la vie. Et c'est pour ça que moi, je pense que le voyage doit être inculqué même aux enfants dès le plus jeune âge pour qu'on ait un monde où les gens, on se comprend plus et on arrive à tout simplement, même si on est tous des êtres humains, à accepter nos différences et nos visions de vie, quoi.
Laura, merci beaucoup.
Merci à toi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Vous venez d'écouter l'émission Regarde ailleurs, une émission que j'enregistre lors de mes différents déplacements en tant que photographe, reporter et voyageur. J'aime bien penser qu'une rencontre peut en inspirer beaucoup d'autres et j'aime donner la parole à tous ceux qui ont un parcours de vie en lien avec le voyage, l'interculturalité, le mouvement ou la découverte du monde ou la découverte de soi.